Europe 1. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Simone sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Simone.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Simone et quel âge avez-vous ?
Alors, je vous appelle de Massy dans l'Essonne et j'ai 31 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, ma chère Simone ?
Alors, je veux vous parler de la santé mentale et physique dans le sport de haut niveau.
Ah, super. Ça, je n'en ai jamais parlé sur cette libre antenne. La santé mentale et physique dans le sport de haut niveau. Alors, par où voulez-vous commencer ? Vous allez nous parler de vous, de votre histoire. Oui. Cette santé mentale, pour vous, elle a été compliquée à maintenir ? Vous avez été dans le sport de haut niveau, vous-même ?
Voilà, ouais. Je vais me présenter. Du coup, moi, d'accord. Je suis ancienne handballeuse professionnelle.
D'accord.
Et en effet, tout ce qui est santé mentale, santé physique, c'est quelque chose où j'aimerais beaucoup sensibiliser. Parce que moi, j'ai fait toute ma carrière de handballeuse dans le secret de mon handicap. Donc, j'ai fait 15 ans de handball. J'ai eu un accident à la naissance qui me laisse une paralysie sur le bras droit.
Oui.
Et c'est vrai que pendant toute ma carrière de handballeuse, j'ai jamais dit clairement que j'étais en situation de handicap, même si ça se voyait plus ou moins, enfin tout le monde voyait que j'avais un problème sur le bras droit. Mais en fait, le mot handicap n'a jamais été posé, donc personne ne pouvait se douter que c'était un handicap. Et donc voilà, maintenant que j'ai arrêté ma carrière par rapport à d'autres outils de santé en plus, maintenant j'aimerais parler de ça.
De tout cela, parce que cela a pesé sur votre santé mentale de cacher ce handicap, je suppose.
Oui, ça et pas mal de choses qui se passent dans le haut niveau, qui se passent dans nos clubs, pas mal de choses que les gens ne savent pas forcément. C'est vrai que des sportifs de haut niveau, on a une très belle image. Tout le monde pense qu'on vit super bien, qu'on n'a pas de soucis, alors que parfois, c'est tout le contraire.
Oui.
Donc, j'essaye de sensibiliser là-dessus.
D'accord. Alors, on va remonter le temps et puis commencer au moment où vous subissez deux opérations sur votre bras autour de vos 7 et de vos 8 ans. Vous n'arrivez pas à retrouver une bonne rotation du bras à cette époque.
Voilà, donc j'ai eu l'arrachement du plexus brachial, donc ça c'était vraiment, c'était une mauvaise manipulation du médecin à la naissance, donc ça casse le bras. Et ensuite arrive cette première opération à l'âge de 7 ans, et non, je retrouve pas une bonne rotation sur le bras, donc ça fait que sur le bras droit, j'ai pas du tout de rotation externe, je peux pas tourner la paume de main vers le ciel, il y a plein de mouvements que je peux pas faire, mettre la main dans le dos, enfin plein de petites choses comme ça. Donc je garde cette paralysie partielle.
D'accord. Qui ne vous empêche pas vraiment de jouer plus tard, en fait.
Ouais. Bon, en fait, quand j'étais très jeune, mon handicap se voyait énormément, vu que j'utilisais pas du tout mon bras droit. Je gardais souvent la main dans la poche parce que je pouvais pas reposer mon bras, tout simplement. Et c'est vrai que quand je vais grandir, après ces deux opérations-là, à l'âge de 10 ans, je décide de m'inscrire au handball. Mmh. Et finalement, ça se passe super bien pour moi. J'ai passé tous les échelons, on va dire, jusqu'à rentrer en sport-études.
Oui.
Et c'est vrai que le bras, je n'utilise pas plus que ça, en fait, le bras droit, quand je suis assez jeune.
Quand vous jouez, d'accord.
Oui, quand je joue. Et en fait, c'est vraiment quand j'arrive dans le monde du haut niveau, enfin, après mes 18 ans, dans le monde professionnel, où là, on commence à faire tout ce qui est des séances de physique, musculation. Et là, je vais commencer à vraiment ressentir ma différence.
D'accord. Ah, comment vous ressentez la différence par rapport aux autres, je suppose, le niveau ?
Oui, voilà, par rapport aux autres, enfin, du sens où moi, je ne peux pas faire tel ou tel exercice en musculation ou faire des pompes. Oui. Ça je ne peux pas le faire. Et quand on est beaucoup plus jeune, on n'est pas soumis à tout ce qui est séance de physique. En fait, on ne fait que du handball et ça s'arrête là. On ne fait pas tout ce qui est musculation.
D'accord. Donc, en fait, vous atteignez le sport-études. Est-ce que vous vous doutiez que vous alliez accéder au sport de haut niveau comme ça, devenir pro ?
Bah, c'est vrai que quand j'intègre le club à Massy, c'est un club professionnel pour les garçons. Et c'est vrai que l'entraîneur que j'ai, donc, lui, il est déjà dans le haut niveau. Lui, il voyait seulement que j'étais gauchère, que j'étais grande.
Oui.
Donc pour lui, j'avais des chances dans le monde du handball. Et après, tout s'enchaîne très, très vite pour moi. Je suis vite surclassée dans les catégories supérieures. Et après, bah, je rentre en sport études sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait, parce que le handball, moi, je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais fait à l'école, j'en avais jamais vu à la télé.
Qu'est-ce qui vous amène à faire du handball alors, Simone?
Franchement, j'en avais jamais vu, et j'avais juste un oncle à moi qui jouait au handball. Je l'avais même jamais vu jouer. Et c'est vrai qu'à cette période-là, bah, ma grand-mère avait dit que tous les enfants devaient faire du sport, devraient faire du sport. Moi, j'avais déjà vu le foot, le basket à la télé, et je voyais que des hommes faire du foot, du basket. Donc, je me suis dit, non, c'est pas pour moi.
Ouais.
Et je me suis dit, pourquoi pas le handball, peut-être c'est un peu plus féminin. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au handball.
D'accord. Donc, vous ne remarquez pas trop la différence par rapport à votre handicap, tant que vous êtes dans un plus bas niveau. C'est en professionnel que ça va commencer à se voir, non?
Ça se voyait déjà quand j'étais en sport études. Tout le monde voyait que j'avais un problème sur le bras. Mais voilà, quand on est dans le sport de haut niveau, tout le monde a mal quelque part. Tout le monde s'est déjà fait opérer des croisés, enfin du genou, de l'épaule. Donc en fait, dans la tête des gens, c'était elle s'est cassé l'épaule, elle s'est fait opérer de l'épaule, et donc c'est comme ça. Donc personne pouvait se douter de toute l'histoire réelle, quoi.
D'accord. Et on vous le fait remarquer un petit peu ou pas?
Oui, bien sûr. Alors, on me le fait remarquer. J'ai souvent des réflexions par rapport à mon bras droit.
Oui.
Quand je vais arriver dans mon premier club professionnel, je vais avoir pas mal de réflexions, pas mal de moqueries. Donc c'est vrai que c'était un peu dur, un peu difficile à cette période-là. J'avais entre 18 et 20 ans, j'ai resté 2 ans dans ce club. Et c'est vrai que j'avais peur par la suite d'aller dans un autre club, par crainte que les moqueries recommencent dans un autre club.
Oui, parce que là, vous jouez avec des jeunes femmes qui, comme vous, ont fait le sport-études, je suppose. Vous êtes avec des gens que vous connaissez.
Non, quand j'arrive dans ce club-là, non, pas du tout.
Ah non, vous ne les connaissiez pas du tout, d'accord.
Non, c'est un nouveau club, c'était plus en Île-de-France, j'étais partie. C'était un club, je ne connaissais pas les gens de base, après j'ai appris à les connaître. Mais c'est vrai que j'avais souvent des réflexions, tout ça, c'est un peu difficile. Et après moi, je ne voulais pas dire le mot handicap parce que j'avais peur que ça remette ma progression en cause et qu'on ne me prenne pas dans tel ou tel club en fait.
D'accord, donc vous évoluez dans votre carrière professionnelle plutôt bien, puisque ça se passe plutôt bien pour vous. Quand, de votre point de vue, affrontez-vous les premiers obstacles, les premières épreuves liées au psychique?
Déjà, pendant le sport-études, tout se passe bien. Donc ça dure 4 ans, de mes 14 à 18 ans. Là, j'ai pas trop de soucis. C'est vraiment quand je vais arriver dans le monde professionnel, je vais voir comment c'est la vraie vie, en fait, de handballeuse professionnelle. C'est là où, en fait, ça va commencer.
Oui.
Et en fait, je vais vivre pas mal d'événements pendant toute ma carrière professionnelle. Et en fait, c'est quand j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté à l'âge de 25 ans, donc c'est assez, assez jeune. Et en fait, c'est en sortant de cette bulle-là, de cette bulle de handballistique, où j'ai remarqué qu'en fait, il y a plein de choses qui n'allaient pas. C'est comme si j'avais un voile sur les yeux et que je vivais les choses et que voilà, c'était comme ça, il fallait le faire. Et une fois sorti de là, c'est là où j'ai réalisé qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas et que ce n'était pas normal.
Donc, c'est-à-dire, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est levé comme voile finalement?
Il y a plein de choses. Par exemple, c'est vrai que dans le sport, on nous demande d'être performant. On parle beaucoup de performance. On nous demande de courir, de marquer des buts, d'être en forme.
Oui.
Et c'est vrai que dans certains clubs, il n'y a pas tout qui est mis en place pour atteindre tout ça.
Mm-hmm.
Moi, par exemple, quand je vais arriver dans un club dans le sud de la France, juillet, août, nous, c'est la période où... en fait, tout ce qui est physique, c'est la pré-saison. Donc, et en septembre, les matchs commencent. Et c'est vrai qu'à cette période-là, c'est très intense, c'est très physique. Et moi, je me souviens, les jeunes, j'étais encore jeune à cette période-là, ils allaient nous mettre à deux jeunes dans un petit studio. Moi, je devais dormir sur un matelas par terre, et ça pendant 2 mois. Et après, il faut être à l'entraînement à 6h du matin et il faut être performant. Mais c'est plein de petites choses comme ça que je me suis rendu compte que ce n'était pas normal, en fait.
Oui, vous aviez une pression quand même permanente, en fait. C'est ce que...
Bah, ouais, enfin, plein de petites choses comme ça. Et je me dis, oui, en effet, ça a joué sur ma santé mentale.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence, justement, d'être dans une bulle comme ça, d'être tout le temps dans le sport, et le sport de niveau, les matchs, les entraînements. Est-ce que finalement, quand on sort de tout ça, et dans le handball surtout, est-ce qu'on est préparé à ça?
Bah, justement, on vit dans cette bulle-là et on ne s'en rend pas trop compte de qu'est-ce qu'est la vraie vie, parce qu'on ne nous sensibilise pas à la vraie vie. En fait, on ne nous parle que de sport, que de handball. Et on nous parle pas de ce qui se passe, on va dire, à l'extérieur, hein, même si on est bien là physiquement avec tout le monde. Hein.
Oui.
Mais on va pas nous parler de l'après-carrière, on va pas nous sensibiliser de, il faut continuer ses études, c'est très important. On va pas, des choses bêtes, hein, par exemple, comment déclarer nos impôts. Donc ça fait qu'il y a des personnes, parfois, arrivé à 25, 26 ans, il y a le fisc qui leur tombe dessus et ils ont une grosse somme à payer. Et c'est vrai que nous, on ne nous sensibilise pas à la vraie vie, en fait.
On ne vous sensibilise pas du tout à ces choses-là. Il n'y a pas des avocats. Vous aviez un agent dans le handball. Est-ce qu'il y a des agents ou pas?
Quand j'ai arrêté il y a presque 6 ans maintenant, il n'y en avait pas énormément en France.
Hein.
Oui. Pas quelque... Là, ça arrive de plus en plus. Là, actuellement, c'est quelque chose qui se développe.
Oui.
Mais avant, non, hein, c'est toi qui négociais avec le manager du club. Voilà, après, c'est un monde où il n'y a pas énormément d'argent non plus. Donc c'est compliqué d'avoir des agents.
Parce que quand on est pro, en fait, de handball féminin, on gagne combien par mois, en gros, en moyenne?
La moyenne, c'est le SMIC. Hein.
La moyenne, c'est le SMIC, d'accord.
Okay. Aux alentours du SMIC, ouais, voilà.
D'accord. Et on ne fait que ça?
En général, on a deux entraînements par jour.
Oui.
Moi, personnellement, j'ai toujours continué mes études à côté.
D'accord.
J'ai toujours continué mes études à côté parce que, déjà, par rapport à mon handicap, je savais qu'à tout moment, ça pouvait s'arrêter. Et en plus, je m'étais toujours dit, je sais que je ne vais pas pouvoir arriver jusqu'à 30 ans ou plus.
Oui.
Donc voilà. Et dès que je suis arrivée dans mon premier club professionnel, quand j'ai vu comment ça se passait, ce monde-là, je me suis dit, oulala, il faut vraiment que je sorte de là avec un bagage.
Oui, oui, d'accord. Vous vous êtes dit, quand je vais arrêter le handball, ça sera le désert pour moi, en fait. Il y a beaucoup de joueuses que vous avez vues comme ça sortir, être complètement perdu.
Ah oui, mais beaucoup de joueuses, beaucoup de sportifs, parce que voilà, je connais d'autres sportifs dans d'autres disciplines.
Oui.
C'est ce qu'on appelle la petite mort du sportif. Il y a plein de sportifs, justement, dès qu'ils arrêtent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de spectateurs, il n'y a plus de public, il n'y a plus personne derrière eux. Ils se retrouvent comme ça, tout seuls, en dépression. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, en tout cas, moi, je veux vraiment parler de la santé mentale des sportifs de haut niveau. Il y a des champions du monde, champions olympiques, justement, qui essayent de sensibiliser sur la dépression aujourd'hui.
Oui.
Parce que c'est vrai que... Il y a certaines personnes qui pensent qu'on passe à la télé, donc on est super riche, que tout se passe super bien dans nos vies, mais c'est pas forcément le cas.
Non, mais alors ça se passe comment alors pour d'autres, le plus catastrophique que vous ayez vu, sans donner de nom, hein, mais qu'est-ce que vous avez pu constater justement? Ce non-accompagnement donc durant la carrière, ça vous l'avez. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que tous les sports sont au même niveau concernant ça? Est-ce que tous les sportifs de haut niveau, sport pro, sont tous à la même enseigne, en fait? Ou est-ce qu'il y a un sport, je pense au football par exemple, où les sportifs sont mieux accompagnés aujourd'hui? Parce que moi, je vais vous dire, j'entends exactement ce que vous racontez ce soir. C'est que même dans le football, les mômes qui sortent, enfin les mômes qui sont devenus des hommes, hein, pour la plupart, n'ont pas été préparés à cette sortie.
Ah non. On rentre dans cette vie, dans cette bulle-là à très très jeune, 12-14 ans. On en ressort à l'âge adulte, à 30 ans. Et au final, on ne nous a parlé que de sport. Et c'est vrai que quand on arrive dans la vie réelle, bah c'est pas ça, quoi. Donc ça peut être très très difficile pour certains sportifs. Mais moi, je pense aussi par rapport à mon handicap, en fait, il y avait un côté où je me disais, il faut vraiment que je continue mes études parce que, voilà, et aussi pour avoir un contact avec d'autres gens qui ne sont pas dans le sport, parce que avoir des amis que dans le sport, voir les copines du handball du lundi au dimanche, voir que les entraîneurs, je pense que ce n'est pas facile aussi. Donc moi, je voulais vraiment me détacher de ça et c'est bizarre à dire, mais pour moi, aller à l'école, c'était un échappatoire.
Vous connaissez le bouquin de Raphaël Poulain, Quand j'étais Superman ?
Non, pas du tout.
Ben, je vous le conseille, c'est l'histoire justement d'un sportif de haut niveau dans le rugby qui explique justement et qui donne des conférences aujourd'hui visiblement et qui explique le saut vertigineux en fait qu'est la sortie de la carrière de sportif de haut niveau. Vous aviez donc fait des études de quoi, Simone, vous m'avez dit ?
Alors moi, à la base, j'étais dans le commerce. J'ai fait un BTS en négociation relations clients et après, je suis partie dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication. Donc communication, j'ai fait une licence en communication audiovisuelle puis un master en marketing et communication.
Oui, d'accord. Donc, voilà. Et donc, en sortant, là, vous avez 30 ans, ça fait combien de temps que vous êtes sortie du haut niveau ?
Ça va faire 6 ans.
6 ans. Et comment ça se passe alors pour vous ? Parce que vous avez quand même, vous n'avez jamais arrêté votre travail, vos études. Donc, est-ce que c'est sûrement un énorme plus pour vous ?
C'est sûr que moi, en fait, quand j'ai arrêté, c'est vrai que tout le monde me demande, mais le handball, ça te manque pas. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une délivrance, clairement. Après, ça dépend des gens. Il y en a, ça va vraiment leur manquer, ils vont avoir des pressions. Moi, en fait, par rapport à tous mes soucis de santé, ça a été une délivrance parce que j'avais trop mal. Mmh. Et par rapport à mon handicap, justement, j'ai trop compensé sur le côté gauche. Donc, j'ai commencé à avoir énormément de problèmes sur le côté gauche. Une lésion à l'épaule, je dois me faire opérer. Au coude, j'ai un problème, je dois me faire opérer aussi.
Oui.
Donc, à un moment donné, j'ai dit stop, quoi. J'ai dit stop, je ne pouvais pas continuer comme ça. Et par la suite, par rapport à la santé mentale, je ressasse pas mal de choses qui se sont passées dans mes clubs. Et c'est pour ça que quand j'ai arrêté à l'âge de 25 ans, c'est vrai que j'avais toujours pas parlé de mon handicap et tout le monde me demandait mais pourquoi t'as arrêté le hand, pourquoi t'as arrêté. Et 2 ans après, je suis sortie du silence.
Oui.
Je suis sortie du silence, j'ai tout expliqué dans un article de presse et on m'a encore plus posé de questions. Et donc j'ai voulu écrire un livre à partir de là.
D'accord, vous avez écrit un livre que vous avez auto-édité aux éditions que l'on trouve sur Amazon, qui s'appelle « L'image du sportif parfait ». Ça veut dire quoi, ça ? Parlons de ce titre, justement, Simone. « L'image du sportif parfait », c'est quoi cette image qu'on doit garder ?
L'image du sportif parfait, c'est l'image à laquelle on nous renvoie tout le temps. Les gens, les entraîneurs, tout le monde nous voit parfait, tout le monde nous renvoie à cette image du sportif parfait. Et en fait, ce titre, c'est mon témoignage et le témoignage d'autres sportifs pour dire qu'on arrête de se cacher derrière l'image du sportif parfait. Et en fait, on va dire la vérité de ce qui se passe dans le monde du haut niveau. Donc moi, je parle du handicap. Il y a d'autres personnes en situation de handicap aussi qui témoignent. Eux, j'ai rencontré beaucoup plus jeunes. Et eux, leur handicap se voyait beaucoup plus que moi. Donc, ils n'ont pas pu intégrer tout ce qui est sport-études. Ensuite, il y a d'autres témoignages justement qui parlent de dépression, des personnes qui sont champions olympiques, champions du monde. Et malgré ça, ils sont en dépression. Moi, je divulgue mon salaire. Parce que pas mal de personnes croient que je suis riche, alors que pas du tout. On parle aussi quand les clubs déposent le bilan, parce qu'il y a énormément de clubs qui déposent le bilan et on ne peut pas se douter de comment la joueuse réagit en fait. Donc il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, en fait, on arrête de se cacher derrière cette image du sportif parfait et on dit tout simplement ce qu'on a vécu réellement dans nos clubs.
D'accord. Et vous, en fait, lorsque vous vous dites le sportif parfait, le sportif de haut niveau, les matchs, cette bulle, le cocon, tout le temps la pression justement de l'entraîneur qui a lui-même la pression du club pour qu'il y ait des résultats qui suivent. Ça met une pression permanente sur vous, athlète, en fait. Ça vous use au bout d'un moment ?
Bah, en fait, on a une pression permanente, mais en fait, je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on est dans cette bulle-là. Moi, c'est vraiment quand je suis sortie de cette bulle-là que je me suis dit « Ah ouais, il y a trop de choses qui n'allaient pas ». Et par exemple, concernant l'image du sportif parfait, moi, par exemple, quand j'avais 16 ans, j'avais dit à mon entraîneur je ne pouvais pas venir à l'entraînement parce que je ne me sentais pas bien, j'étais malade. Il m'a dit « Ok ». Mais après, j'ai plus été sélectionnée pendant 2 ou 3 matchs. Donc, à partir de ce jour-là, depuis mes 16 ans, j'ai plus jamais dit à un entraîneur que j'étais malade ou un truc comme ça. Donc, même si on se sent mal, on se sent pas bien, on doit être là, on doit être sur le terrain. Quand on est blessé, par exemple, on va se faire une entorse à la cheville, il faut qu'au bout de 2 semaines, on soit là, on soit présent. Alors, en fait, on joue tout le temps blessé. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça que les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils vont dire telle ou telle joueuse n'est pas performante, mais ils ne savent pas en fait comment on est traité derrière.
Oui. Vous avez souvent. Est-ce que vous vous êtes sentie en dépression durant votre carrière, vous, Simone ?
Moi, personnellement, je ne pense pas avoir été en dépression, mais je pense que j'avais pas mal de choses sur le cœur. Donc, j'avais vraiment besoin d'exprimer mes ressentis, tout simplement. Et je pense que je l'ai fait à travers mon livre. Et j'en avais vraiment besoin.
D'accord.
Parce que, par exemple, tout ce qui s'est passé dans mes clubs, mes proches, ils ne sont pas au courant. Moi, je n'ai jamais rien dit.
Vous ne leur disiez pas ? Vous ne leur racontiez pas ?
J'expliquais absolument rien. Donc, en gros, c'est dans le livre qu'ils découvrent tout, en fait.
D'accord.
Et voilà, c'est encore une fois se cacher derrière l'image du sportif parfait.
Vous n'échangez pas du tout avec votre mère, votre grand-mère, dont vous étiez très proche pourtant ?
Au début, quand je suis partie, les premières fois, dès qu'il se passait des petites choses, et quand il y avait des petits problèmes, j'expliquais à ma mère. Et c'est vrai que il y a un moment, ma mère était intervenue, donc elle avait appelé l'entraîneur directement. Et là, en fait, l'entraîneur, il m'avait menacé de me virer du club parce que j'avais prévenu ma mère et j'avais que 18 ans. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit j'ai plus appelé ma mère pour quoi que ce soit et j'ai fait ma carrière comme ça. Et c'est vrai que nous les sportifs, on va pas prévenir nos familles parce que on a peur que nos parents ils nous disent c'est bon, t'arrêtes, tu rentres.
Oui. Exactement. D'accord. Et en fait quand vous sortez, vous gardez des contacts avec les autres filles ? Est-ce que vous êtes encore un peu accompagnée ou est-ce que finalement vous êtes toute seule quand vous sortez ?
Moi, personnellement, comme j'explique dans mon livre, heureusement qu'il y a l'amitié. Parce que moi, tous mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est dans le monde du sport.
Dans le handball, oui.
C'est dans le handball et dans d'autres sports. Parce que moi, j'étais dans un sport études, c'était un CREFS. Du coup, il y avait 200 athlètes, il y avait plein de disciplines. Oui. Donc, c'est vrai que dans pas mal de disciplines, on se connaît un peu tous. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a il y a cette amitié-là. Nous, les sportifs, on sait exactement ce que l'on vit et que personne d'autre peut comprendre. Donc, c'est vrai, ces amitiés-là, ça tient même après le handball. Donc oui, je suis toujours en contact avec mes copines depuis l'âge de 14 ans. Par exemple.
D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez arrêté là maintenant ?
Là, ça va faire 6 ans, ouais.
Ça fait 6 ans. Donc, les choses se sont plutôt bien passées pour vous, finalement.
Au début, c'était un peu compliqué par rapport à tous mes soucis de santé. C'est toujours encore compliqué aujourd'hui. C'est toujours encore compliqué.
On s'abîme le corps, c'est ça que vous voulez expliquer, Simone ? C'est que le sport de haut niveau, on en garde des séquelles ?
Ah oui, le sport de haut niveau, c'est vrai qu'on dit de faire du sport. Oui, il faut faire du sport, mais le sport de haut niveau, c'est pas bon pour la santé. Par exemple, il y a un témoignage dans mon livre, c'est une taekwondoïste qui est vice-championne olympique. Elle s'est fait opérer 3 fois du genou, donc elle a arrêté sa carrière à l'âge de 26 ans. Et aujourd'hui, stationner debout plus de 20 minutes, c'est compliqué. C'est compliqué pour elle.
D'accord. Et vous, aujourd'hui, vous avez mal encore de toutes ces années de sport de haut niveau ?
Ah oui, moi, je suis suivie, je fais des soins intensifs, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes et du coup, je sensibilise beaucoup aussi sur le handicap invisible.
Vous avez mis votre carrière, vous avez mis fin à votre carrière un peu à la surprise générale, hein, puisque vous avez joué pour l'équipe nationale du Congo, vous avez
C'est ça.
participé 3 ans avant donc la fin de votre carrière au championnat du monde. Vous mettez donc fin à votre carrière à la surprise générale. Pourquoi en fait? Vous n'en pouvez plus à ce moment-là?
Oui, en fait, j'étais en Allemagne à cette période-là. Je m'étais cassé la main quelques mois avant, la main gauche, donc encore une blessure sur le côté gauche. Je vais revenir à la compétition et après, je vais constater que j'ai ce problème à l'épaule gauche, donc
Oui.
une lésion qui passe quand même en maladie professionnelle, hein. Donc c'est pas rien. Donc de là, enfin, je fais mon année en Allemagne, je fais pas la deuxième année et je rentre tout simplement sans rien dire à personne. Je m'arrête tout simplement. Après, je savais pas que j'allais vraiment arrêter à ce moment-là. Enfin, en tout cas, je décide de plus faire de handball pour le moment et finalement, je vais pas reprendre à haut niveau en tout cas.
D'accord. Ça n'est pas du tout un crève-cœur, donc aujourd'hui, de ne plus faire partie du tout du monde du handball, donc.
Non, moi ça me manquait pas plus que ça. Après, c'est vrai que l'année dernière j'ai repris après 5 ans d'arrêt. On m'a sollicité pour aller jouer en Guadeloupe
Oui.
et je suis allée jouer en Guadeloupe. Enfin, c'était en gros un contrat de 2 mois, donc j'aurais
Oui.
dit, vous êtes sûr? Seulement 2 mois, on m'a dit oui, seulement 2 mois. Donc j'y suis allée, j'ai vécu mon expérience et je me dis, voilà, enfin, c'est des petits bonus que le handball peut m'apporter. Donc,
Parce que vous avez encore un bon niveau aujourd'hui à 30 ans.
j'ai pu reprendre en tout cas un bon niveau.
Oui, parce
Un
que vous
bon
êtes jeune quand
niveau.
même, vous avez arrêté jeune, non?
Voilà, j'ai arrêté à 25 ans et c'est vrai que tout le monde me posait des questions de pourquoi j'ai arrêté aussi
Oui,
jeune.
oui. Parce que ça aurait pu durer encore jusqu'à, c'est quoi, c'est 30 ans, 32 ans?
Maintenant, ça, il y a des jeux qui vont jusqu'à 35, 37, même plus, hein, de nos jours, ça pousse encore plus, ouais.
D'accord. Vous travaillez aujourd'hui, Simone?
Aujourd'hui, je suis à mon compte en tant qu'infographiste.
D'accord, ok.
Donc voilà.
Donc vous faites votre vie. Pas de regret donc d'avoir arrêté tôt cette carrière de sportif de haut niveau.
Le seul regret que j'ai, c'est que, enfin, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait rien pour le handball, tout ce qui était handball adapté, donc le handisport par rapport au handball, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Là, c'est
Oui.
vrai que maintenant, la Fédération française travaille dessus. Maintenant, on a le droit à une équipe de hand-fauteuil et une équipe de handball sourd, mais il n'y a toujours rien pour le handicap invisible. Donc, c'est vrai que moi, j'aimerais bien sensibiliser là-dessus pour faire comprendre que 80% des situations de handicap sont invisibles et que nous sommes là et qu'il faudrait commencer à avoir des équipes de hand, de basket pour le handicap invisible. Et voilà, enfin, comme ça, enfin, prendre en compte la pathologie de chaque sportif et au lieu d'arrêter à 25 ans, arrêter à 30, 35 ans. Donc voilà.
D'accord. Bon, bah écoutez, merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous avez écrit ce livre que vous pouvez trouver, vous qui nous écoutez, sur Amazon, L'image du sportif parfait. C'est Simone, ex-handballeuse pro, qui a caché son handicap pendant toute sa carrière et qui évoque donc cette carrière et puis cette sortie de carrière. Et j'allais parler de réinsertion, mais non. Comment on appelle ça? C'est pas la réinsertion, c'est la reconversion, exactement. Merci Simone. Je rappelle que c'est Simone Thiérault, le nom de votre nom en entier. D'accord? Si vous voulez vous procurer ce livre sur Amazon. Merci Simone.
Merci à vous.
Bonne soirée, au revoir. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.